vous connaissez le sujet qui nous réunit. Alors, face à un tel sujet, il est nécessaire quand même de serrer des problèmes. Parce que avoir devant soi une heure un quart, pour traiter le 19e siècle, même si on élimine la musique classique, parce que ce n'est pas du tout le sujet, il faut serrer des problèmes. La population française au 19e siècle a eu progressivement accès à l'alphabétisation, notamment grâce aux lois de Jules Ferry, mais une grande majorité, essentiellement rurale, n'avait à sa disposition qu'une tradition orale, au demeurant extrêmement riche. Dès les origines du chant d'église ou de celui des troubadours, le besoin de chanter ou psalmodier un texte ou une poésie s'est fait sentir. Je dis psalmodier, c'est-à-dire y mettre un air, parfois sur deux notes, sur trois notes, mais ça a été un besoin ressenti. On ne récitait pas de poèmes comme on en récite maintenant. On les psalmodiait, et à l'église à plus forte raison. Beaucoup plus tard et plus près de nous, que ce soit par le chansonnier Dranem, dont vous avez sans doute entendu parler, ou Alfred de Musset, il est dit « Poète, prends ton luth ». Et le poète, pour dire ses poèmes, prenait son luth, quand luth il y avait. Tant il est vrai qu'un texte, un poème, est d'emblée écouté et accepté s'il est soutenu par un air. Venant des siècles précédents, un corpus énorme de chants, de contes, de légendes circulait de génération en génération pour former dans le domaine du chant ce qu'on a nommé a posteriori l'ancienne chanson traditionnelle française, ou tout simplement parfois la chanson folklorique. Il y a eu au cours de ce siècle un vaste mouvement de collecte qui permit de fixer sur papier des milliers de ces airs et textes. Ce ne sera pas l'objet de notre rencontre d'aujourd'hui. Il faudrait aussi évoquer le vaste mouvement orphéonique créé en 1833 par Wilhelm, qui a réuni des dizaines de milliers d'hommes puis de femmes dans des chorales réparties sur tout le territoire français, mouvement en grande partie à l'origine des chorales mixtes ou à voix égales qui ont fleuri partout au XXe siècle. C'était une nécessité parce que, avant la Révolution, c'était l'Église et puis les écoles catholiques, notamment, et peut-être même protestantes, qui apprenaient à chanter, qui faisaient chanter des maîtrises, beaucoup. La Révolution a fait cesser tout cela, et l'État a compris qu'il fallait remplacer. On a créé les conservatoires, les écoles, etc. Ça a été long. Hein. Les premiers, ça a été des balbutiements, et puis petit à petit, ben voilà. Tout le 19e siècle s'est attaché à essayer de réparer ce manque. Enfin, pourquoi ne pas évoquer non plus la tradition chantante des compagnons du Tour de France ? Sur ce sujet, je vous invite à regarder la thèse de Julie Hiver, qui est sortie il y a peu de temps. Julie Hiver, à laquelle j'ai modestement participé, je la connais bien, et je ne suis pour rien dans son texte, mais je lui ai apporté de la documentation. Par ailleurs, s'imposer des limites d'un siècle pour évoquer notre sujet, c'est donner dans un cartésianisme qui voudrait gommer les interpénétrations et surtout les vraies bornes créées par les événements historiques. Le 19e siècle qui nous concerne aujourd'hui irait plutôt du Premier Empire au début de la Troisième République, car il est évident que les évolutions techniques et industrielles installent déjà les années 1890-1900 dans le début du XXe. Ce serait donc finalement la durée de vie, en gros, de notre Victor Hugo, 1802-1885. À partir de Paris, qui a souvent servi de modèle d'inspiration, il s'est répandu, et ce, bien avant le siècle qui nous préoccupe, l'habitude d'entendre dans les rues, sur les ponts, lors des marchés, des foires, des chanteurs fort écoutés et qui faisaient même reprendre en chœur tel ou tel refrain. Nous avons là une première catégorie de chansons populaires qui va évoluer au cours du siècle et dont nous allons parler. Parallèlement et progressivement, les aristocrates napoléoniens, ceux de la Restauration, ainsi que la bourgeoisie naissante, vont avoir à cœur de posséder leur salon, comme faisaient les aristocrates de l'Ancien Régime, afin d'accueillir régulièrement des musiciens, des amis aussi, des artistes, et autour d'un piano, nouveau meuble indispensable, de chanter des airs et des romances. Ce phénomène fait l'objet de la deuxième partie de cet entretien. Donc je reviens maintenant à la chanson dite des rues. Cette tradition très ancienne, née plutôt à Paris, a été assez vite copiée et adoptée dans toutes les villes de province. Les chanteurs, évoqués plus haut, chantaient a cappella, c'est-à-dire sans rien, sans musique, sans rien, ou en s'accompagnant progressivement d'un orgue de barbarie, ou à la fin du 19e siècle du fameux accordéon qui va se répandre comme une traînée de poudre jusqu'à l'arrivée de la guitare. Ces chanteurs n'étaient en général pas compositeurs. Ils utilisaient des airs, connus de préférence, sur lesquels ils plaquaient de nouvelles paroles, comptant l'amour, la mort, le bon vin, et très souvent faisant allusion à la politique. Suivant le régime en place, ce n'était pas sans risque. Et nombreux sont ceux qui ont fait une partie de leur carrière en prison ou frappé de lourdes amendes. Alors d'où venaient ces airs? On les appelle des timbres. Ils sont issus des opéras comiques, plus tard des opérettes ou de leurs parodies, des pièces à vaudeville présentées au théâtre de la Foire Saint-Germain ou à la Comédie italienne et que l'on sifflotait ou chantonnait volontiers. Certains étaient en vogue depuis l'Ancien Régime et d'autres ont fleuri de la Révolution à la Troisième République. Des chanteurs, pour tenter de gagner leur vie, vendaient, sous forme de feuilles volantes, des feuilles volantes qui se vendaient, c'est une feuille par feuille, avec le tampon de l'autorisation du gouvernement. Alors, les chanteurs vendaient sous forme de feuilles volantes, de 2 ou 4 pages, leurs paroles, souvent en vers, sans jamais une note de musique. Les problèmes typographiques et l'ignorance générale du solfège rendaient inutile la présence de portée musicale. Il y avait donc toujours, sous le titre de la chanson, la mention, 2 points, sur l'air de... Et puis on mettait le nom de l'air. Les airs étaient désignés par l'incipit ou l'incipit, ça dépend comment on prononce le latin actuellement, de celui qui était choisi. Par exemple, sur l'air de « Au clair de la lune » ou de « J'ai du bon tabac », eh ben ça permettait à tout un chacun de chanter le texte inscrit sur la feuille volante. Parfois, et pour nous qui vivons au XXIe siècle, c'est un obstacle infranchissable, on rencontre la mention « air connu ». ou bien air à faire. Alors encore, l'air à faire, on se dit, bon, bah, allez, on s'y attelle, on essaie d'inventer un air. Bon. On a souvent appelé ces vieux airs Pont Neuf, parce qu'autrefois, de nombreux marchands de chansons se tenaient sur le Pont Neuf à Paris. Les airs Malbrook sont en guerre, du roi d'Agobert, la mère Michel a perdu son chat, etc., sont des Ponts Neufs. Je ne peux ici entrer dans trop de détails, mais si l'histoire de ces chants vous intéresse, je vous cite quelques ouvrages incontournables. Il y a l'histoire de la chanson et de l'opérette de Charles Imbert, dans la collection Irremplaçable et Irremplacée, parue en 1967 aux éditions Rencontres et la Guilde du Disque. L'histoire de la chanson française de Claude Duneton. Ce sont 2 volumes qui sont parus aux éditions du Seuil en 1998. Alors ça, c'est un monument très important. Enfin, l'œuvre de Jean-Baptiste Wecquerlin. Wecquerlin, qui était bibliothécaire du conservatoire au début du XXe siècle, avant ou en même temps que Bourgaud, du Coudray, que le compositeur Maurice Emmanuel, etc. Et c'était un érudit. Il y avait eu Julien Tirceau à la fin du XIXe siècle et début du XXe. C'était des érudits, ces gens-là. Ils écrivaient plein de bouquins parce qu'ils étaient dans les bouquins toute la journée. Alors, ça leur donnait des idées. Ils ont écrit plein de choses. Et Jean-Baptiste Wecquerlin était un grand collectionneur de feuilles volantes et de parutions en tout genre. Si vous allez à la Bibliothèque nationale, suffit de dire qu'on a le bac et puis qu'on veut faire une recherche. Dans l'ancienne BNF, c'est-à-dire Richelieu, bon, il y a encore le fond musical là. Et quand vous arrivez dans la salle de lecture, qui est un lieu qui est un peu comme ça, un tout petit peu plus grand, mais c'est une atmosphère utérine, merveilleuse. On y est bien pour faire des recherches. Et vous pouvez fouiller partout, on vous laisse. Puis vous avez un président de séance qui est toujours un érudit, qui répond à toutes les questions que vous pouvez avoir, et même celles auxquelles vous n'aviez pas pensé. Et il y a un fonds Wecquerlin, mais il faut savoir qu'il existe. Alors si vous allez le demander, on vous l'ouvre. Si vous ne le demandez pas, vous ne le trouverez pas. Et dans ce fonds Wecquerlin, il y a des dizaines d'ouvrages et des milliers de chansons collectionnées par Wecquerlin. Bon, alors le fonds Wecquerlin est indispensable à tout curieux ou chercheur dans ce domaine. C'est là d'ailleurs que j'ai conduit Julie Hiver, si elle ne connaissait pas la BNF, je l'ai coachée pour arriver jusqu'au fond Wecquerlin, elle était ravie. Voilà. Alors son livre, L'ancienne chanson française, paru en 1887, il mélange les chansons de rue, les chants folkloriques ruraux et les airs écrits, mais il contient beaucoup de remarques intéressantes et il y a 30 timbres nouveaux, notés, nouveaux pour lui à cette époque-là. En revanche, son ouvrage qui s'appelle La chanson populaire, très intéressant, mais il ne s'occupe que des sources écrites depuis le Moyen-Âge et de l'analyse musicale des timbres recueillis. Donc c'est un intérêt moyen pour le sujet d'aujourd'hui. Alors, les chanteurs populaires qui nous occupent aujourd'hui, dont certains atteignirent une véritable célébrité, aimaient bien allier le chant et le vin, si bien qu'ils se réunissaient volontiers dans les tavernes, cabarets, qui n'y trouvaient que des avantages. À la fin du XVIIIe siècle, au carrefour de Bussy, une de ces tavernes, tenue par un certain Landel, s'appelait Le Caveau. Les chansonniers d'alors y chantaient leurs dernières trouvailles, déclamaient leurs derniers vers, et un public de plus en plus nombreux y venait, même quelques aristocrates venaient s'y encanailler. On y chantait le vin, l'amour, puis la Révolution, et même les victoires de Bonaparte. La dernière réunion de ce caveau eut lieu en 1802. En décembre 1805, le caveau renaît sous le nom de caveau moderne. Ils font tous paraître au fur et à mesure des agendas les caveaux modernes. Armand Gouffet et le libraire Capel en furent les fondateurs. Ils y appelèrent Marc-Antoine Madeleine Desaugiers, fils du compositeur Marc-Antoine Desaugiers. Je vous en redirai un mot. Nicolas Brasier. Alors, il y a peut-être des noms que vous ne connaissez pas. Donc, Nicolas Brasier, Antoine Antignac, Antoine-Pierre-Augustin Pihis, P-2-I-S, le vicomte Joseph-Alexandre Ségur, dit Ségur aîné, on disait seulement Ségur aîné, Emmanuel Dupaty, Pierre Laujon, Louis-Philippon de la Madeleine, François Ducré-Duminil, Charles-Louis Cadet-Gassicourt, Émile Debreau, c'est l'auteur de Fanfan en avant, Fanfan la Pulipe, etc. Et il y en a bien d'autres. Les dîners avaient lieu au Rocher de Cancale, rue Montorgueil, le 20 de chaque mois. C'est pour ce caveau que Desaugiers, qui était né en 1772 et qui est mort en 1827, composa la plupart de ses propres chansons, notamment le célèbre « Bon voyage, monsieur Dumollet », que vous connaissez. Sa célébrité lui valut d'être nommé, et c'est le seul, chansonnier en titre de la ville de Paris, alors avant 1827, avec un salaire de 6000 francs. Je ne sais pas ce que ça représente en euros actuels, je ne sais pas. Vous chercherez. Sur Internet, on trouve les transformations. Chaque mois, le caveau publiait un compte-rendu des dîners sous le titre de « Journal des gourmands et des belles ». Le nombre de participants n'a cessé d'augmenter et poussé par Desaugiers, il faut noter l'arrivée de Pierre-Jean de Béranger, né en 1780 et mort en 1857, dont la célébrité est arrivée jusqu'à nous. Il y a une rue là, Béranger. Toutes ces chansons, parues en plusieurs éditions, sont sans musique, mais seulement avec la mention sur l'air d'eux. De beaux albums sont parus post-mortem, j'en ai apporté un, là, très beau, lourd, puis il y en a un autre, post-mortem, avec cette fois la musique prévue par le chansonnier, parce qu'il y a quelqu'un qui a fait le boulot de rechercher. Les tensions politiques qui suivirent la Restauration firent se dissoudre ce caveau en 1817. Mais les survivants se réfugièrent au souper de Momus. Souper de Momus, ils ont édité aussi un machin, là, voilà. Puis au réveil du caveau, en 1825, et aux enfants du caveau, en 1834. En 1837, il se reconstitue complètement, et son siège social sera à partir de 1865 au café Corazza, au Palais Royal. Les lois sur la presse de 1849 et 1852 réglementent sévèrement le colportage et les chanteurs des rues, et même la place qu'ils occupent sur le trottoir. Toutes les feuilles volantes, les ouvrages doivent être estampillés, les vendeurs déclarés avec des horaires précis, et ils doivent porter une médaille. Les peines de prison et même d'exil sanctionnant les manquements ou le contenu même des chansons sont courantes et très sévères sous le Second Empire. La police recherche aussi des enfants, souvent sans parents, qui secondent ces chanteurs de rue. Ces derniers sont parfois accusés de vol d'enfants. Pensez au roman « Sans famille » d'Hector Malou. Il est nécessaire de dire un mot sur ce Pierre Capel que j'ai cité et que j'ai nommé plus haut. Libraire-compositeur, né en 1770 et mort en 1851. En effet, il a eu l'idée de s'atteler à une besogne de titan, digne d'un littré, savoir la constitution d'un énorme dictionnaire appelé « La clé du caveau », recensant et classant 2350 timbres de chansons et de vaudevilles, précisant leur nom, leur coupe, avec plusieurs tables d'entrée, outils vite indispensables pour tous les chansonniers jusqu'à nos jours. De son vivant, il y eut 3 éditions en 1811, 1816 et 1848. Ce dictionnaire a encore servi dans les derniers avatars du caveau au XXe siècle, le caveau de la République, les deux ânes, par exemple. Et des chansonniers comme Robert Rocca ont encore utilisé ces timbres pour faire passer leurs textes. Et il se peut que ça soit encore en vol. Outre la possibilité de voir cet ouvrage aujourd'hui, je me permets de vous recommander l'ouvrage. Alors c'est une autre bibliographie. Ça s'appelle « Des airs et des coupes, deux points, la clé du caveau, bréviaire des chansonniers » de Jacques Chéronneau. Jacques Chéronneau, qui est un chercheur, professeur d'université, que j'ai rencontré une ou deux fois, quand il est au Musée des arts et traditions populaires à la Porte de Neuilly. Il a été le coach de Julie Hivert pour faire sa thèse. Et donc, de Jacques Chéronneau, il s'est paru en 2007. Et c'est une documentation très bien, vous pouvez avoir confiance. En 1822, peut-être piqué au vif par le travail de Capelle, Joseph-Denis Doche, qui est né en 1766 et mort en 1825, fait paraître la Musette du Vaudeville, ou Nouvelle Clé du Caveau, qui ne contient que des airs avec musique de Doche lui-même, classés par coupe, ainsi que des airs de vaudeville ou de romance, mais sans paroles. Tout est prêt à l'emploi. Alors, ce que je dis n'engage que moi, et j'ai peut-être complètement tort, mais j'ai eu l'impression que ce Doche avait été un petit peu jaloux du succès de Capelle avec la clé du caveau. Il a voulu sa propre clé du caveau uniquement pour ses propres œuvres. Parce que Doche a écrit des centaines de vaudevilles qui sont complètement tombées en désuétude maintenant, bien entendu. Je viens d'employer le mot vaudeville. Alors, excusez-moi pour ceux pour qui j'enfonce une porte ouverte, mais s'il y en a qui ont un doute, je prends 2 minutes pour expliquer. Le mot vaudeville. Il est sans doute bon de dire que ce mot a changé d'acception au cours du siècle. Né vraisemblablement des vaudevilles d'Olivier Basselin au Moyen-Âge, puis vaudeville de Jean-Charles d'Avoine au XVIe siècle, il désigne ensuite une pièce de théâtre qui inclut des ponts neufs, des couplets jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Par exemple, Beaumarchais truffait encore ses pièces de couplets sur l'air d'eux. Feydeau, Labiche continueront eux aussi. Actuellement, le vaudeville désigne une pièce de théâtre avec ou sans couplet chanté, légère et fondée sur l'intrigue et le quiproquo. La plupart de ces airs étaient extraits des parodies d'opéra données au Théâtre de la Foire ou à la Comédie italienne, airs qui faisaient la joie des Parisiens. Favart en est un des plus grands exemples. J'ai apporté un Favart. Il y a une dizaine de volumes de Favart, mais j'en ai apporté un pour vous montrer ce que c'est. Le Favart qui a donné nom à la salle Favart. Le vaudeville mènera aussi à l'opérette et à l'opéra comique. Alors, je nomme, je l'ai déjà presque dit, les souvenirs du Ménestrel, les almanachs du caveau moderne ou Rocher de Cancale, almanachs dédiés aux dames, almanachs des grâces, almanachs des muses, chansonniers du vaudeville, chansonniers des belles, chansonniers français, choix des dîners du vaudeville, le caveau, les soupers de Momus, almanachs chantants. Chaque fois, ça comprend plein de chansons. Parfois, avec la musique notée à la fin pour une dizaine, puis tous les autres, c'est sur l'air d'eux. Je me suis amusé d'ailleurs à trouver des airs, j'ai retrouvé, ils sont là-dedans. Donc éventuellement, j'ai fourni d'ailleurs des chansons à des gens qui voulaient les chanter. Et ils se sont débrouillés pour plaquer les paroles, parce que parfois c'est dur de placer exactement les paroles sous l'air qui est indiqué. Hein, il y a des déplacements de syllabes. Et il en existe bien d'autres que je n'ai pas, bien sûr, et que je ne cite pas. Les lieux d'accueil vont proliférer dans la deuxième partie du siècle. Petit problème de vocabulaire. La goguette est à l'origine une pratique festive consistant à se réunir en petits groupes d'une vingtaine de personnes, comme ici, et qui sont devenues des sociétés chantantes portant un nom, comme la Lys chansonnière, lieu où débuta Frédéric Béra, que vous connaissez, avec sa célèbre chanson « Ma Normandie ». J'irai revoir « Ma Normandie ». C'est une des plus célèbres et durables goguettes parisiennes nées en 1831. On a vite confondu ce nom avec le mot « guinguette », qui l'a improprement remplacé et qui désigne encore actuellement un cabaret populaire, souvent de la banlieue parisienne, officiant aussi comme restaurant et comme lieu de bal. Des guinguettes se sont créées dans toute la France. De même sont nés les cafés-concerts, qui n'ont pas besoin de définition, eux-mêmes transformés en music-hall à la fin du siècle. Ces cafés-concerts nés à la fin du XVIIIe sur le boulevard du Temple ont été interdits sous l'Empire et n'ont réapparu qu'avec la Deuxième République. De plus, la création de la SACEM, Société des auteurs, en 1851, calquée sur la Société des auteurs de théâtre qui avait été créée par Beaumarchais en 1791, donne un sérieux coup de fouet à l'impression des partitions et à la prolifération des salles destinées aux chansonniers, qui commençaient à se nourrir mieux de leur art. Pour vous donner une idée, alors excusez-moi, ça va être un petit peu long, mais pour les Parisiens, ça va vous situer les choses peut-être. C'est un catalogue, mais il faut bien en passer par là. Pour vous donner une idée, je me permets de lire cette liste qui est non exhaustive. Les Amandiers, dans le 20e. Les Ambassadeurs. L'Horloge, sur les Champs-Élysées. Le Café Moka, rue de la Lune. Le Cadran, rue Montmartre. Le Café de France, boulevard Bonne Nouvelle. Le Cheval Blanc, devenu la Scala, boulevard de Strasbourg. L'Eden Concert. Le Chat Noir, boulevard Rochechouart, où Aristide Bruant s'installa jusqu'au XXe siècle, on va en reparler tout à l'heure. La Pépinière, rue de la Pépinière. Les Quatre Arts, boulevard de Clichy. Le Trianon, l'Empire, avenue de Wagram. Le Café de la Gaîté, boulevard du Temple. Les Folies Bergères, ancienne Folie Trévise, rue Richer. L'Eden Comédie, rue du Château d'Eau. L'Eden Concert, boulevard de Sébastopol. L'Empire, avenue de Wagram. Le Bataclan, avec des traits d'union, devenu Bataclan. Boulevard Voltaire, de sinistre mémoire depuis novembre dernier. Le Café d'Apollon, au Palais Royal. L'Eldorado, boulevard de Strasbourg. La Porte Saint-Martin, où débuta Teresa, vedette dans d'autres cabarets plus tard. L'Élysée Montmartre, devenu Trianon, boulevard de Rochechouart. Les Folies Dramatiques, dans l'actuelle rue René Boulanger. Les Folies Marigny, avenue Marigny. L'Alcazar, le Café Concert du Géant, boulevard du Temple. Le Cadran, rue Montmartre. Le Cadran 2, avenue d'Auteuil. Le Casino Français, dans la Galerie Montpensier. Le Lapin Agile, rue des Saules. Le Moulin de la Galette, rue Le Pic. Arrêtons ici. Des dizaines d'autres établissements se créeront dans les dernières années du siècle et tous ont permis l'essor et le succès d'un nombre incroyable de chanteurs, d'interprètes, chantant eux-mêmes leurs œuvres, dont la musique était souvent celle d'un timbre du caveau ou une nouvelle musique d'un ami musicien. Beaucoup de ces chansonniers devenus célèbres ne sont que les auteurs des textes. Rares sont ceux qui ont écrit leurs mélodies. Là encore, je vous cite les plus connus. Il y en a bien d'autres. Excusez-moi, je cite. Eugène Potier, l'auteur de l'International, qui a été condamné à mort et gracié par l'amnistie de 1880. Il fréquente la liste chansonnière. Pierre Dupont, l'auteur des Bœufs. J'ai deux grands bœufs dans mon étable. Il fréquente les goguettes. Alexandre Desrousseaux, c'est l'auteur du Petit Quinquin qui a fréquenté les goguettes lilloises et publié 5 volumes de chansons et pasquilles lilloises, souvent en patois du Nord. Joseph Darcier, son œuvre est très importante, il fréquente les goguettes et à la fin de sa vie, le Théâtre de la Gaîté. Gustave Mathieu, poète qui fréquente les goguettes et créateur du cabaret Jean Raisin. Paul Avenel, chansonnier et journaliste, connu, qui fréquente les goguettes et notamment la liste chansonnière. Gustave Nadeau, grand personnage, poète et musicien. Beaucoup de ses chansons ont été mises en musique par lui-même. Il est membre assidu du caveau et de la liste chansonnière et est également membre du caveau lyonnais qui est lié à celui de Paris. Jean-Baptiste Clément, chansonnier montmartrois et communard, auteur du Temps des Cerises et de la Semaine Sanglante. Emprisonné sous le Second Empire, il est libéré puis condamné à mort par contumace en 1874. Il s'exile et est gracié par la loi d'amnistie de 1880. Sa célébrité est telle que ça lui valut des funérailles quasi nationales en 1903. Paul Henrion, président de la SACEM et goguettier à la goguette du Poulet Sauté, auteur de romances et de sonnettes, nous le retrouverons plus bas. Aristide Bruant, qui a connu la célébrité surtout au début du XXe siècle et qui a servi la gloire du cabaret Le Chat Noir. Il a même composé la musique d'une partie de son répertoire, d'une partie seulement. Bon, c'est un personnage truculent, on va l'écouter. J'ai voulu que vous ayez sa voix authentique, c'est lui qui chante, c'est pas quelqu'un qui reprend sa chanson. Vous allez entendre sa voix, la manière dont il chantait. Je dois dire aussi qu'il a écrit des chansons qu'on a du mal à encaisser maintenant parce que qui était anti-féministe en diable, pour lutter contre les boucheries de Reichshoffen et de Solferino. Il engageait les dames à rester à la maison, à fabriquer des enfants, et tant pis s'ils en perdaient, mais il fallait surtout en faire, et en faire des soldats. Et ils n'avaient pas de temps à perdre à travailler ailleurs qu'à la maison. Puis il fallait que le monsieur, en rentrant, il trouve à manger. Bon, écoutons la voix d'Aristide Bruant.
La lune s'éteint sur le boulevard, le mille-poivre se sert, il veut y faire au sort. D'où vient-tu, vieille branche? Moi, je lui répondis, c'est aujourd'hui dimanche, et c'est demain la nuit. Je cherche la fortune autour du canoir, au clair de la lune, à mon âme.
Vous avez entendu la voix authentique d'Aristide Bruant. J'ai choisi cette chanson-là qui est un poncif dont tout le monde a entendu parler, mais c'est parce qu'elle a été vraiment chantée avant 1900 et ça lui a donné la gloire. Après, il en a chanté bien d'autres, mais c'était aussi après 1900, alors ça dépasse notre sujet. J'en étais à Aristide Bruant. Alors, Jules Jouy, il a écrit Mademoiselle, écoutez-moi donc. Maurice Rollina, Jacques Ferny, Léon Xanroff, l'auteur du Fiacre, dont vous avez entendu parler, ça a été chanté beaucoup. J'ai des chansons de Xanroff ici, que vous pourrez voir. Frédéric Béra, poète, pianiste, un des rares à composer lui-même ses airs. Le plus célèbre est Ma Normandie, je l'avais cité tout à l'heure. Il fréquente la liste chansonnière et est très ami de Béranger. Théodore Botrel, dont la réputation a dépassé les frontières. Breton d'origine, il commence par faire du théâtre, puis écrit des chansons, parfois avec sa propre musique, mais souvent mise en musique par un ami musicien. Ce qu'il rendit immédiatement célèbre, c'est la Paimpolaise. Il se fait entendre partout, sa voix est forte et assurée. Il connaît un grand succès, surtout dans les milieux régionalistes, marqués à droite et anti-Dreyfusard. Et ses chansons qui précèdent la guerre de 14 sont un peu, pour nous, dures à supporter. Mais bon, c'est comme ça, c'est l'époque. Mais il était universellement connu, même en dehors des frontières. On écoute sa voix. Chanté avec le chapeau des Bretons, bien sûr. La Paimpolaise, c'est encore chanté hein, en Bretagne. Pierre-Jean de Béranger, dont j'ai parlé tout à l'heure, et qui a été élu prince des poètes. C'est un des plus prolifiques. Ses dernières, toutes dernières chansons, il n'y a aucune musique, il n'y a que des sur l'air 2. Il faut chercher là-dedans pour trouver l'air. Et puis, post-mortem, il y a des gens qui ont fait un bel album comme ça, avec des gravures. Et puis il y a la musique au bout parce qu'ils ont cherché la musique et l'ont trouvée, bien sûr. Hein, voilà. Donc quelques airs de lui-même. Mais la plupart du temps, ses poèmes doivent se chanter sur l'air 2. Il a été emprisonné 2 fois. Victor Meusy, chansonnier, auteur de revues et d'opérettes. Il fonde le Trianon, il devient président de la SACEM et se produit souvent au Lapin Agile. Maurice McNab chante ses propres chansons, notamment au Chat Noir, très connu pour l'écriture des paroles du célébrissime Métingue du Métropolitain. Vous connaissez-vous ça? Oui, non? C'était samedi et c'était jour de fête et le soleil brillait à l'horizon. J'avais déjà bu 5 à 6 bouteilles et je crois bien que j'étais à moitié rond. Voilà, maintenant qui gueule sur le zinc, feignant qu'elle me dit t'as quitté ton turbin. Mais non, je lui dis, je m'en vais au Métinge, au grand Métinge du Métropolitain. C'était hier, hein, ça. Mais non, je lui dis, je m'en vais au Métinge, au grand Métinge du Métropolitain. C'est très connu. Edmond Teulet, typographe, chanteur, auteur critique dramatique. Il écrit aussi la musique de chez Sanson. Xavier Privat, vous en trouverez là, chansonnier-compositeur, qui se fait connaître au caveau lyonnais, puis à Paris, en compagnie de sa femme Francine Lauré. Ils sont considérés comme des défenseurs de la bonne chanson française. Paulin, né Paul Marsalès, comique troupier, alors parce que ça commence des comiques troupiers, à la fin du 19e, et ça a beaucoup de succès, qui débute à la Pépinière, puis à l'Eden Concert, à Alcazar, et enfin aux Ambassadeurs et à la Scala. Alors déguisé en vieux troupier de Napoléon III, il chante ceci. Vous avez les paroles là. L'anatomie.
Ça s'appelle l'anatomie du
croustillier. Ayant vu la tête aux pieds, le plateau s'accroupit, c'est gris. D'ailleurs, faudrait le cavalier pour rapport à son anatomie. Anatomie, je ne dis pas ça. Mon Dieu, qu'est-ce que ça peut bien être? Ça ne fait pas de mettre ma chien à l'âme, mais si ça doit beaucoup paraître. Où est-ce que ça peut bien être placé, ce pauvre sacré maladie? On aurait bien des défendus.
Bon, si vous voulez voir les autres couplets qui sont succulents, sont là. C'est l'humour de l'époque, n'est-ce pas? J'en profite pour dire aussi que j'ai mis les paroles d'une chanson de Botrel qui date du début du XXe siècle. C'est immonde. Il a écrit ça à l'occasion du transport des cendres d'Émile Zola au Panthéon. C'est Botrel, quoi. Voilà. Alors, il y a aussi Paulus, grande vedette du CAFCONS, engagé dans le mouvement boulangiste. Il fréquente les goguettes et chante à l'île Dorado et au Bataclan. En voilà un petit bout. Et c'est sa voix. C'était la voix de Paulus. Dranem, son vrai nom était Charles Armand Ménard. Son surnom en est l'anagramme. Avec Ménard, il a fait Dranem. Début difficile avec ses chansons plutôt scabreuses, mais le succès vient à l'Eldorado et se terminera en triomphe au XXe siècle, etc., etc. Il y en a des quantités. Je vous recommande le magnifique ouvrage de Robert Bressy, intitulé « Florilège de la chanson révolutionnaire de 1789 au Front populaire », dans lequel vous retrouverez beaucoup de ses chansonniers et bien d'autres. C'est un gros bouquin comme ça, très beau, avec des belles illustrations. C'est à offrir parce que c'est lourd et puis c'est bon, mais c'est très beau. On achète les recueils, les feuilles volantes, on se fabrique des carnets de chansons, souvent simples aides-mémoires sans musique, qui reflètent parfaitement les goûts de ce siècle. J'en parlerai tout à l'heure. Voici trois carnets de chansons qui ont été écrits à la main à cette époque-là. La province n'est pas en reste et des caveaux ou des goguettes chantantes fleurissent dans chaque ville. Il est hors de question de vous infliger un catalogue. Mais je cite très simplement l'exemple de Rouen, que je connais le mieux puisque je suis rouennais, où dans les années 1820 paraissent des recueils comme Le Petit Chansonnier Français ou Le Galant Troubadour, Le Délassement des Belles, Le Chansonnier des Enfants du Père Lajoie, L'Amour et la Gaieté et bien d'autres. le théâtre de la Lyre à Rouen, que nous avons connu, il n'existe plus maintenant, accueillait ce genre de production et revue locale. Lorsque l'on commence à regarder de près la fin du 19e, on s'aperçoit que les progrès techniques tels que l'électricité, les micros, les enregistrements qui mènent à l'explosion des music-halls posent cette question. Après la Commune et jusqu'en 1914, est-ce encore le 19e ou est-ce déjà le 20e siècle? Toujours est-il que tout est différent de la première partie du siècle et que de nouveaux artistes, plus interprètes que compositeurs, de nouvelles formes de spectacles chantants sont sur le devant de la scène. Et tout cela constituerait l'objet d'une conférence en soi. Prenons l'exemple d'un Paul Déroulède. Il a certes commencé à se manifester un peu avant 1900, mais c'est surtout aux abords de 14 qu'il est en pleine gloire, porte drapeau des va-t-en-guerre, des ennemis de Jaurès, et prêt à mettre la fleur au fusil. Il en est des dizaines d'autres. Aussi j'ai décidé d'arrêter provisoirement ici cette évocation de la chanson des rues et des guinguettes au 19e, et je vous invite maintenant à entrer dans les salons de ces dames. Au diable, les limites chronologiques. Tout le monde connaît l'auteur de notre Marseillaise. Elle a été chantée, pas par Rouget de Lisle lui-même, paraît-il, en 1792 dans le salon du maire de Strasbourg, de Dietrich. L'auteur n'a pas manqué de détracteurs. On a même prétendu qu'il ne connaissait pas la musique. Il a pourtant écrit d'autres hymnes et 6 romances publiées sans date au magasin de musique. Un musicologue ami qui a tenté de le réhabiliter m'a fait donc des photocopies de ses romances qui finalement en valent bien d'autres. Tout ceci pour vous dire que le maire de Strasbourg avait un piano dans son salon et qu'il y organisait des soirées musicales. Il n'était pas le seul. Le clavecin, synonyme d'ancien régime, a été relégué dans les greniers et les pianofortés et pianos français, Pleyel, Erard et tout, ont meublé progressivement les appartements de la noblesse d'Empire. Ceux des émigrés à leur retour, et surtout ceux des bourgeois, dont la fortune naissance trouva son apogée sous Louis-Philippe et Napoléon III. Ils ont eu à cœur, comme avant eux M. Jourdain, d'avoir leur salon ouvert régulièrement aux gens de leur classe. Pas question, bien sûr, sauf pour s'en moquer, de chanter les chansons des rues. On invitait donc, quand on en avait les moyens, des chanteurs d'opéra, ou tout simplement la maîtresse de maison, pour chanter en dégustant un bon vin et quelques biscuits, les dernières romances glanées ça et là. Voici le maître mot lâché, celui de romance. Le XVIIIe siècle a vu le succès obtenu dans les salons aristocratiques par les brunettes, les bergerettes, elles-mêmes succédant aux airs de cour. La fin du siècle a amené la disparition des airs avec basse continue, remplacés progressivement par des romances. Mélodies avec accompagnement de piano, Jean-Jacques Rousseau fut un des premiers à en produire, avec Jean-Paul Égide Martini, « Plaisir d'amour ne dure qu'un moment » en 1792, suivi par les compositeurs du temps, Grétry, Méhul, Boieldieu, etc. Au début du XIXe siècle, un chanteur fait fureur, c'est Pierre-Jean Gara, né en 1792, baryton ténor dont la voix facile déconcertait son public. Il avait déjà séduit Marie-Antoinette, et le comte d'Artois, c'est le futur Charles X, excusez-moi pour ceux, ça fait un peu cuistre, mais enfin bon. Mais il chante aussi devant Napoléon. Les incroyables, incroyables et les merveilleuses, qui suppriment suprême élégance le R de leur parler, font aussi appel à lui. On dit même que Talleyrand, qui savait recevoir les grands de ce monde et dont la table était réputée dans toute l'Europe, l'aurait fait venir à Vienne, pendant la tenue du congrès en 1815, pour régaler les têtes couronnées européennes. Le thème traité dans ses romances, mélodie la plupart du temps sans refrain, est essentiellement l'amour, de préférence malheureux. Parfois, notamment sous l'Empire, des thèmes médiévaux sont traités. Walter Scott n'est pas loin. Pour les gens sérieux, le mot romance prend vite une teinte péjorative. Les textes ont peu de valeur poétique, les formules mélodiques sont simplistes, et les harmonisations sans génie. Et les leaders allemands de Beethoven, Mendelssohn, Schubert, etc. commencent à arriver et sont traduits en français. Pour la petite histoire, j'ai vu à la BNF une partition d'un certain François Schubert, Schubert, intitulé La Truite, en français bien sûr, et c'était La Truite vagabonde. Voilà. François Schubert. Mais la difficulté de la langue et de l'accompagnement pianistique assure le succès de la romance française dans les salons. Elle est plus à la portée des oreilles incultes et des voix ordinaires que ces leaders qui demandent une voix souvent étendue et travaillée. Les dames apprennent à jouer du piano et sont friandes des nouvelles partitions parues dans les almanachs, les revues et sur feuilles volantes. Les gens inventaient des romances. Voilà un certain monsieur Eusèbe d'Auterive qui n'a pas réussi à se faire éditer, mais qui a fait relier ses propres manuscrits. Alors c'est que ce ne sont que des manuscrits. Et ces deux, trois volumes-là, ce sont des extraits des dernières pages de l'illustration où paraissaient régulièrement des partitions sur deux pages ou sur trois pages que ces dames ensuite pouvaient jouer dans les salons parce que c'était pas totalement inintéressant. Il y en avait d'auteurs connus, hein, de compositeurs qui ont laissé un nom. Avant la première restauration, les musicologues s'accordent à parler de décadence déjà. Il s'agit d'un jugement de valeur qui ne tient pas compte de leur succès grandissant. Et comme toujours, les compositeurs qui ne sortent pas du sérail, sérail c'est le conservatoire évidemment, sont méprisés ou pire, ignorés. Les parutions ne font pourtant que croître et les compositeurs mineurs, soit, qui s'y adonnent, se multiplient. Les publications musicales abondent et les tyroliennes, les barcaroles, les berceuses, les boléros, les tarentelles, les nocturnes, les chansonnettes, signées François Mazzini, Loïsa Puget, Sophie Gail, Frédéric Béra, Giuseppe Conconne, Louis Clapisson, élu à l'Académie des Beaux-Arts, devant Berlioz, qui était candidat en même temps, et c'est Louis Clapisson qui a été élu. Berlioz lui-même, Paul Blaquière, François Bonaldi, Pierre Chéret, Valentino Dorval, Pierre Dupont, l'auteur des Bœufs, Victor Parisot, Charles Plantin, Victor Robillard, Alphonse Thys, Joseph Vimeux, Amédée de Beauplan, Henri Romagnesi, Louis Abadie, Adolphe Adam, l'auteur de Minuit chrétien et d'opéras célèbres, Gaston d'Albano, Pauline Duchange, Pauline Henrion, etc. Et des dizaines d'autres sont largement diffusés et chantés. Un exemple de ces choses qui avaient beaucoup de succès. Voici par exemple une pièce qui s'appelle « La demande en mariage » de Loïsa Puget. Célébrissime en France.
Vous me demandez en mariage, je suis bien sensible à votre mariage.
C'est pas elle qui chante.
Monsieur Nicolas, mais je ne vous le cache pas, je suis dans un grand embarras. Car c'est pour longtemps qu'on se marie, il faut donc un peu de sympathie. Je crains entre nous que lorsque nous serons époux, nous n'ayons pas les mêmes goûts. Ah, je suis bonne et ménagère, mais j'ai la tête un peu légère. J'aime à changer à toute heure, en tout temps, et de bonnets et de rubans. J'aime aller à toutes les fêtes, j'aime avoir de belles toilettes. Et pour me plaire, il faudrait tous les jours nouveaux plaisirs, nouveaux atouts.
Vous en aurez tant que vous voudrez, même davantage. Si ça vous plaît, si ça vous plaît, mon Dieu, ça me plaira.
Ce n'est pas ça qui nous empêchera d'être heureux en ménage. Ce n'est pas ça qui nous empêchera d'être heureux en ménage.
Ah, ça c'est du Loïsa Puget.
C'est délicieux.
Gounod a dit... La romance de Loïsa Puget est parvenue à son point d'abrutissement extrême. Voici maintenant, sous les arceaux de Notre-Dame, une pièce mémorable de M. Louis Clapisson, membre de l'Académie des Beaux-Arts, et meilleur que Berlioz.
Sous les arceaux de Notre-Dame, des nids d'oiseaux se sont blottis en genouveaux chantant leur gamme comme en un coin du paradis. Je les ai vus là sans surprise. Ne sont-ils pas enfants du ciel et se loger dans une église? C'était pour eux tout naturel.
Oui, bah vous avez compris. Et un petit air aussi de ce fameux Charles Plantade. Plantade était connu aussi. Si vous cherchez dans les dictionnaires, vous le trouverez. Il a eu son temps de célébrité. Et ça s'appelle Le Petit Chaperon Rouge.
Dans la plaine de Montrouge avait une charmante enfant appelée le petit chaperon rouge. C'est, me direz-vous, un nom singulier. Je n'ai jamais vu dans le calendrier Pourquoi l'appelait-on le petit chaperon rouge? Je vais faire cesser votre étonnement. Ça venait tout bonnement de ce que c'est pas.
Quand elle est remplie,
je l'avais voué au blanc.
Je crois qu'on peut se permettre de dire etc. Voilà, etc. Voilà. Alors, donc cette forme bourgeoise de musique continue son chemin, se nourrissant des opéras bouffes, opéras comiques et opérettes qui vont marquer la fin du siècle. Un exemple, ce tube à partir de 1836, extrait du postillon de Longjumeau d'Adolphe Adam, super connu. Dans la bibliothèque, j'ai vu là au deuxième étage, il y a deux, trois opéras d'Adolphe Adam.
C'est véridique, on peut m'en croire, et connu de tout le canton. Quand il passait dans un village, tout le bon sexe était ravi, et le cœur de la pluie sauvage galopait en troupe avec lui. Oh, qu'il était beau le postino de Longjumeau. Le postillon de Longjumeau, le postillon de Longjumeau. Bon.
Voilà un exemple. Alors, le temps de la Goualande finalement n'est pas loin. Hein. Les roses blanches, héritières de ce courant, amèneront la vie en rose de la Môme Piaf et la romance de Paris de Charles Trenet. Les liaisons ferroviaires Paris-Rouen-Le Havre et Paris-Orléans sont établies en 1843 et le Paris-Marseille en 1855. Le duc de Morny invente la station de Deauville autour de 1860 et la reine Hortense celle de Dinard. On commence à s'y rendre en calèche, mais la Société des chemins de fer ne tarde pas à inciter les bourgeois parisiens, rouennais et autres à découvrir la campagne et la mer. C'est l'époque des villégiatures et des dimanches à la campagne. Guy de Maupassant et Flaubert aidant, pour ne citer que ces deux grands écrivains, un certain intérêt s'éveille pour la campagne normande, comme elle s'éveillera pour l'Alsace, la Lorraine, avec les romans d'Erckmann Chatrian, les eaux, auxquelles on se rend sur la trace de Napoléon III, la Bretagne avec Émile Souvestre, Chateaubriand, le Berry avec Georges Sand, etc. À partir de ces époques, les dessinateurs caricaturistes typifie les paysans aperçus au passage. Le Normand avec son bonnet rayé, sa blouse et son parler, l'Alsacienne, ainsi à la charnière des deux siècles, y atteindra la gloire, les Bretons, etc. Et l'on se gausse allègrement des travers, des patois, des accents. Il est de bon ton dans les salons bourgeois de savoir imiter tel parler, tel accent, tel roulement d'air. Et l'on termine le tableau en attribuant un caractère à chaque région. Une multitude de scénettes, chansons comiques, scènes normandes, scènes auvergnates et bien d'autres fleurissent et emplissent des recueils fort vendus et réimprimés. La BNF en possède une grande quantité. Pour ne citer que lui, Paul Henrion, dont j'ai parlé tout à l'heure, a écrit des dizaines de ses monologues aux refrains chantés, des scénettes patoisantes, le tout avec un succès étonnant quand on lit le contenu. Il paraît qu'on riait. Tout cela est pour nous parfaitement insipide, parfois vulgaire et rarement intéressant. J'ai eu la chance, en fouinant dans les foires à vieux papier, d'acquérir un certain nombre de ces productions et j'ai trouvé aussi trois carnets de chansons manuscrits sur lesquels j'ai beaucoup travaillé parce que j'ai essayé de trouver les mystères qu'il y avait là-dedans et qui donnent une image assez précise des goûts bourgeois de la deuxième partie du XIXe siècle. Car c'était aussi la mode d'avoir son livre de chansons. Ces carnets, sur lesquels souvent, sans musique, on recopiait les paroles pour les chanter lors des fameuses soirées, mais il en est également avec accompagnement de piano, recopié minutieusement et relié avec soin, ainsi que les compositions originales qui n'ont jamais rencontré l'édition ou la notoriété. On peut aussi trouver des livres d'or de grandes maisons sur lesquels les invités prestigieux écrivaient quelques mots et même quelques portées de musique. Celui de Madame de Beaulieu m'est passé par les mains. J'ai eu la mauvaise idée de le revendre, mais enfin j'en ai conservé quelques photocopies. Alors, dans ces trois carnets, je vous dis juste une petite incise, hein, c'est qu'il y a beaucoup de ces chansons qui sont écrites à l'aide de chiffres, à l'aide de chiffrage, à l'aide des pages entières. C'est un système qui était tout à fait en vogue au XIXe siècle, un code qui était enseigné dans les écoles, qui était, paraît-il, réputé plus facile que le solfège normal, avec les portées musicales et les noirs posés sur les lignes, etc. C'était des chiffres. Le chiffre 1 désignait la tonique, donc on écrivait le nom du ton. Je fais circuler une feuille là parce que c'est facile de s'y retrouver. C'est l'air de la Marseillaise, avec d'autres paroles, harmonisé à deux voix. Il y a écrit ton de ce, qui veut dire sol majeur. Donc le 1, c'est le sol. Le numéro 5, bah, c'est le ré. Alors, s'il y a un point sur la note, c'est au-dessus du 1. S'il n'y a pas de point, c'est que c'est en dessous. Si c'est le 5. Et puis, il y a un petit code pour le rythme, un petit zéro pour un temps de silence, etc. Et une fois qu'on a acquis ça, c'est vrai que c'est relativement facile à mémoriser. Et les gens totalement incultes en musique et qui n'avaient pas de prof sous la main se débrouillaient comme ça. Vous savez que les instruments à cordes, qui étaient aussi un peu au début du siècle, hein, au début du 19e, qui étaient un peu synonymes de l'Ancien Régime, étaient un petit peu mis en sourdine, pas pour la musique classique, hein, je parle de la musique populaire, la musique qui nous occupe aujourd'hui, et même dans les salons. Mais en revanche, on a mis la gomme sur les instruments à vent, qui étaient réputés plutôt plus faciles, et où on pouvait réunir plein de clarinettes, plein de clairons. Et puis il y a eu Adolphe Sax, plus tard, qui a fait ses inventions, qui ont eu un succès formidable. Eh bien, il y avait des partitions pour fanfare qui étaient entièrement chiffrées. Et on sait que certains chefs de fanfare ignoraient complètement la musique, mais pouvaient diriger grâce à ces partitions totalement chiffrées. Alors ça vous donne une petite idée. Connaissant l'air d'avance, vous n'avez pas de déchiffrage à faire. Mais là, moi je me suis amusé à tout déchiffrer et à retrouver d'où ça pouvait sortir. Alors c'est un catalogue un petit peu des goûts de ces gens-là. Il y a une seule chanson folklorique, une seule chanson issue du peuple. Toutes les autres sont des romances, des chansons d'un compositeur plus ou moins connu parmi ceux que j'ai nommés, et ou des fois inconnus, bon voilà, avec des paroles bah, qui valent ce qui valent. Il y a du Paul Henrion, il y a plusieurs scénettes avec parties qu'on récitait comme une pièce de théâtre, et puis un refrain chanté, voilà. Alors j'ai pas mal travaillé là-dessus, et je sens que je saurais vous ennuyer encore longtemps. Oui, j'avais prévu, je l'ai écrit. Tant il y a à dire sur ce fascinant siècle musical, je préfère vous inviter à vous rapprocher de la documentation que j'ai apportée et qui peut peut-être vous suggérer quelques questions auxquelles je répondrai dans la mesure de mes connaissances parce que je ne peux peut-être pas répondre à tout. En tout cas, et je l'ai écrit, merci de votre attention. Merci.